Bonjour à toutes et à tous, nous sommes à mon tour aujourd'hui chez Gina qui nous accueille chez elle. Merci beaucoup et bonjour Gina.
Merci à vous Corentin, bonjour.
Vous allez nous parler de votre vie en général, de vos animaux. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez grossièrement vous présenter?
Alors, je m'appelle Gina, donc j'ai 44 ans. Je suis d'origine roumaine et je suis venue pour mon chéri en France il y a presque 8 ans. Et depuis, voilà, malheureusement, je suis passée par un burn-out et puis il a fallu que je change de métier. Donc, j'étais amenée de passer du RH, d'un métier de ressources humaines, à faire un métier qui me parlait plus, donc qui me donnait plus de joie, qui était plus important pour moi, pour ma vie, pour mon avenir. Donc, j'ai décidé, après plusieurs discussions avec la famille, avec mon fils, avec mon chéri, j'ai décidé de revenir à mon premier amour, et à me former en tant qu'éducateur canin, d'où j'ai fait un an de formation pour ce métier-là et j'ai passé toutes les habilitations ainsi que mon attestation ACACED pour chien, chat et NAC, nouveaux animaux de compagnie, et toutes les autres formations complémentaires pour pouvoir devenir quelqu'un du bien et aussi bien formé pour que je puisse être un bon professionnel. Donc j'ai fait la formation de premier secours animalier, la formation des chiens catégorisés 1 et 2, la formation pour faire du taxi animalier aussi. Et par la suite, je me suis décidée d'intervenir auprès des humains et des personnes sensibles et en difficulté. Donc, je me suis décidée de me former en tant qu'intervenant en médiation par l'animal. Et aussi, j'ai fait pour les enfants la formation qui s'appelle PECRAM, qui est un programme d'éducation contre la morsure. On apprend vraiment les enfants à se porter avec leurs animaux à la maison et en dehors de leurs habitations, de savoir reconnaître les comportements des chiens, les tempéraments et aussi quoi faire en situation si nommée dangereuse. Voilà un peu de mon histoire et de pourquoi je suis arrivée aujourd'hui ici.
D'accord, merci beaucoup. Je voudrais revenir alors à votre expérience passée, donc en RH. Vous avez fait un burn-out, vous avez décidé un petit peu de changer de vie. Qu'est-ce qui a fait que vous avez décidé d'aller dans les animaux? Peut-être un rapport depuis enfant avec les animaux? Quel est votre rapport en général avec les animaux et pourquoi vous avez choisi de vous reconvertir dans le métier que vous faites actuellement?
En fait, oui, c'est vrai que depuis toujours, j'ai eu des animaux. J'ai eu chez mes grands-parents à la campagne des chevaux, des vaches, voilà, tous les animaux. Et puis, moi-même, j'ai eu toujours des animaux. Mais c'est vrai qu'il y a un lien très fort entre l'abattoir et mon métier d'aujourd'hui. Parce que en tant que RH dans un abattoir, en tant qu'assistante ressources humaines dans un abattoir de cochons ici en France, j'ai vécu pas mal de choses qui n'étaient pas du tout possibles pour moi. Hein, donc pas du tout éthique, pas du tout morale, pas du tout. Enfin, j'ai jamais réussi à comprendre le passage d'un animal vivant qui passe à la mort. Et suite à mon burn-out, je suis restée avec des images dans ma tête qui m'ont choquée et qui m'ont amenée aujourd'hui à travailler avec les animaux et à me dédier la vie aux animaux. Parce qu'aujourd'hui, je suis végétarienne, je suis presque végane. J'ai encore une petite lutte contre moi pour devenir végane. Mais voilà, c'est vraiment là, le lien le plus important, c'est vraiment là, l'abattoir. C'est l'odeur de la mort, c'est l'image qu'en tant qu'une personne normale, on va dire, on n'a pas dans la tête qu'on mange de la viande, qu'on ne connaît pas le passé d'un animal, qu'on ne voit pas la vie qu'ils ont eue et qu'ils arrivent à être des carcasses, qu'ils arrivent même à être lancés à une poubelle parce que, voilà, dans des différentes causes que je préfère ne pas discuter aujourd'hui.
Donc, vous avez eu ce déclic, en fait, quand vous travaillez à l'abattoir. Au niveau, peut-être, bien-être animal, j'imagine qu'il y a beaucoup d'images qui ont fait que vous avez complètement changé dans votre alimentation.
Oui, tout à fait. C'est ça. D'accord. En fait, la viande, c'était vraiment... je cuisinais de la viande, voilà, comme tout le monde. Et puis, jusqu'au moment où j'ai pas pu mastiquer, voilà, j'ai eu l'envie de te vomir. Et de là, c'était le déclic de je ne mange plus de viande parce que je ne peux plus. Oui. Parce que dans ma tête, ça fait trop mal. Tout ce que... quand je vois en face de moi ou dans mon assiette, je vois la souffrance des animaux.
C'est vrai que ça doit être des images qui restent en tête, je pense, surtout oui. Pour des personnes qui aiment les animaux.
C'est ça.
Comment vous pouvez nous parler de ce ressenti ? Alors j'imagine que vous avez ce ressenti, mais peut-être que des personnes travaillant en abattoir aiment aussi les animaux et arrivent peut-être à dissocier ces choses-là. Est-ce que pour vous ça semble... possible de dissocier les deux pour certaines personnes?
C'est un sujet sensible parce que travailler à l'abattoir, c'est-à-dire on n'a pas trop le choix. Donc, il y avait beaucoup d'étrangères dans l'abattoir où j'ai travaillé moi. Donc, ils étaient amenés là-bas pour gagner de l'argent pour pouvoir envoyer à leur famille. Qui souvent ne connaissaient pas la langue, qui étaient amenés là sans savoir exactement où est-ce qu'ils arrivent, dans quel environnement, qu'est-ce qu'ils vont faire exactement. Les informations n'étant pas très claires, ils étaient amenés là, donc ils étaient, on va dire, à 80% obligés de faire son métier parce que, tu arrives dans un logement que tu dois payer. Tu dois payer ta nourriture, tu dois envoyer de l'argent à la maison. Donc, tu es un peu obligé de faire ça. Ou sinon, on avait aussi des collaborateurs français qui faisaient ce métier dans l'abattoir, mais pareil, pour gagner leur vie, pour pouvoir s'offrir un minimum de pouvoir survivre, tout on va dire, ouais. Tout simplement.
Donc la plupart des gens qui étaient là, oui, comme vous dites, c'était simplement pour vivre finalement, pour c'est avoir ça. Un salaire, d'accord.
Oui. Ouais.
Donc vous avez eu cette expérience en RH dans un abattoir. Vous nous disiez que vous venez de Roumanie. Cette expérience-là, vous êtes arrivé pour vivre avec votre mari ici, en fait. Et c'est comme ça que vous êtes arrivé dans cet abattoir pour travailler, au final. Comment ça s'est passé, votre arrivée en France et peut-être votre vie même avant, en Roumanie ?
Oui. En fait, on s'est connus par Internet. Par la suite, Pascal il est venu en Roumanie, donc on a passé du temps en Roumanie, on a fait les vacances ensemble et puis on a beaucoup réfléchi, on est arrivé à la conclusion que ça sera mieux parce qu'on voulait vivre ensemble, donc on a mis en balance soit le fait qu'il vient en Roumanie, soit le fait que je viens en France, donc c'était plus faisable que je vienne en France. Parce que c'était plus difficile pour lui de trouver à son métier, de trouver du travail en Roumanie. Donc, on a fait le choix que ce soit moi qui fais le grand pas et qui arrive en France pour qu'on puisse vivre ensemble. Donc, ça s'est passé en 2018. Je suis arrivée en septembre et puis je ne connaissais pas du tout la langue française. Donc, il a fallu que je commence. Au début, j'avais une heure par semaine au centre social de Fougères avec un bénévole où j'apprenais la langue. J'ai commencé aussi sur une application sur le téléphone à apprendre par moi-même. Donc, il y a quelques mois, on parlait qu'en anglais tous les deux. Je comprenais rien tout autour de moi. Et puis en 2019, en janvier, j'ai commencé sérieusement la formation pour la langue française au CELPES de Fougères, où j'ai fait une formation de quelques mois. J'ai validé un projet professionnel en tant qu'assistante RH. Et j'ai eu le C1, qui est le niveau maximum pour un examen de langue, pour le DCL, pour la langue française. Donc, j'ai passé mon examen et puis j'ai fini ma formation en juin 2019. On a fait les vacances en Roumanie par la suite. Et puis, dès qu'on est rentré à la maison, j'avais commencé à postuler. Enfin, j'avais commencé à regarder les offres d'emploi. Parce qu'il fallait que, voilà, que, comme tout le monde, que je trouve un emploi. J'ai trouvé l'offre d'emploi de cet abattoir. Je ne vais pas donner le nom. J'ai postulé pour un poste, pour une alternance en ressources humaines. J'étais tout de suite appelée par la responsable ressources humaines. J'ai fait mon rendez-vous dans l'entreprise. J'ai fait ma visite dans l'abattoir. Bon, bien sûr, par la suite, j'ai eu des cauchemars un peu toutes les nuits. Mais il fallait que j'avance parce que je voyais comme un poids sur mon dos et puis le fait de réussir, d'arriver, la volonté d'avoir... c'était la première offre d'emploi pour laquelle je postulais. Donc, je voulais vraiment avoir ce poste et pouvoir avancer. Donc, j'ai serré mes dents et je suis allée plus loin. J'étais prise en tant que chargée d'intégration, chargée d'accueil et d'intégration. Et un an plus tard, j'étais passée en tant qu'assistante RH. D'accord. Donc, j'ai continué de travailler dans l'abattoir. Bien sûr que le métier du RH, j'ai aimé à le faire et j'aime beaucoup aujourd'hui aussi. Ça m'a permis d'évoluer beaucoup, pas que dans ma carrière, mais dans ma vie, dans mes connaissances.
Ici en France,
bien sûr, voir comment fonctionne le monde du travail français et les différences qu'on a par rapport à nous. Mais voilà, ça me mangeait par l'intérieur, ça me rôdait, ça me faisait du mal, ça me brûlait toute mon existence. Ouais. Et ce qui a fait que après 3 ans de travail dans cet abattoir, à cause de grande surcharge de travail, d'un changement du groupe et des formations qu'on avait à faire, et dans le même temps, en tant que RH, on devait former les autres et dans le même temps faire notre travail de tous les jours, j'étais amenée, enfin, tout est tombé. Donc, j'étais amenée c'est mon médecin traitant qui m'a arrêtée.
D'accord, ouais.
Parce que je ne voulais pas voir que j'étais au stade de burn-out.
D'accord.
Ouais. Donc, c'est lui qui m'a obligée à rester à la maison, mon compagnon aussi, qui me disait que non, c'est pas possible de continuer, tu ne peux plus aller. Voilà. Je ne voulais pas voir ça, je ne voulais pas laisser ma responsable toute seule, parce que ma collègue, c'était en congé maternité, donc il n'y avait que ma responsable qui était restée toute seule. Donc je me disais, bah non, ce n'est pas possible ça, je ne peux pas la laisser toute seule. J'ai un grand respect pour elle, et puis on se voit aujourd'hui, on continue à se parler, et puis on a une très bonne relation d'amitié. Ouais. Et elle a bien compris ce qui s'est passé avec moi, d'ailleurs, elle est sortie dans le groupe aussi.
D'accord.
Donc voilà, c'est là vraiment où c'était le grand déclic et a commencé toute cette réflexion par rapport aux animaux.
Et toute cette nouvelle vie derrière.
Voilà, c'était pas facile à réfléchir et à faire une reconversion.
J'imagine.
Pas du tout facile parce que je ne trouvais pas ma place et je ne savais pas ce que je veux et ce que je peux faire.
Bien sûr.
La seule idée que j'avais dans la tête, c'était que je ne voulais plus travailler dans un abattoir. Ça, c'était hors de question de revoir la souffrance animale et aussi de rester fermée dans un bureau du matin jusqu'aux nuits.
D'accord.
De ne plus voir la lumière du soleil, de ne plus voir la lumière du jour. Ça, c'était hors de question.
D'accord.
Donc... quand j'étais bien remise après un an de séances avec un psychologue, j'étais bien suivie au centre psychologique de Fougères. J'ai eu du traitement et puis j'étais suivie par ce psychologue. Et puis dès que je me suis remise bien sur mes papates, on va dire, j'ai décidé voilà, que le meilleur moyen de montrer la gratitude envers les animaux... et je ne sais pas, mais j'avais l'impression qu'il fallait que je me fasse pardonner pour tout ce qui s'est passé dans cet abattoir, dans cette maison de la mort. Il fallait que j'arrive à faire à l'envers de ce que j'ai vécu pendant 3 ans. Voilà.
D'accord.
Donc, c'est là où j'ai commencé où l'idée de travailler avec les animaux a commencé à mûrir dans ma tête et que je puisse commencer ma formation.
D'accord. J'aimerais, si vous voulez bien, parler d'un petit détail. Vous êtes venu en France de Roumanie. J'ai cru comprendre que vous aviez un chien, un compagnon,
c'est ça.
Avec lequel ou laquelle, je ne sais pas si c'était un mâle, une femelle.
C'était un mâle. Athos, oui.
Athos,
oui.
Ça. D'accord. Avec qui vous êtes au final revenu, vous êtes venu en France avec ce chien.
Oui, c'était la fusion parfaite, si je peux dire ça, entre homme et animal. C'était mon animal de cœur. Il est venu avec moi du Roumanie, avec mon chat, ma chatte aussi, Ouka, qui est aujourd'hui dans la maison, donc elle a 11 ans et demi. Malheureusement, Athos, il nous a quittés suite à mon burn-out. Donc, en septembre, j'étais arrêtée pour le burn-out et puis en décembre, Athos, il nous a quittés. C'était un grand sauvetage que j'ai fait en Roumanie. C'était pas prévu que j'aille un chien, surtout un chien aussi grand. Il avait presque 70 kilos.
D'accord.
70 kilos d'amour. Donc, il a été maltraité par son maître qui l'a pris quand il était petit. Il lui a fait couper ses oreilles, sa queue. Il passait ses journées dans un tout petit balcon. Mais il n'a pas eu la haine à cause de tout ça. Au contraire, il a fait voir qu'il lutte, qu'il passe cette étape-là et il a pris confiance en lui. Et puis voilà, on a travaillé tout ça ensemble par beaucoup de sorties, beaucoup d'amour, beaucoup de temps passé ensemble. Et puis, quand le jour de partir en France est arrivé, donc... on a pris un transport spécial pour les chiens, un transport qu'ils ont l'air, qu'ils ont de la climatisation et des cases spéciales chiens qui faisaient Roumanie-Angleterre. Donc, on a payé ce transport et puis moi, je suis arrivée par l'avion et puis par la suite, on a pris la voiture et on est allé le chercher à Calais. Donc, on a attendu toute la nuit. Il est arrivé à 4 heures du matin, qu'il est descendu dans ce transport. Et puis, il a fait une grande fête. Il m'a fait... on ne savait pas s'il nous gronde, s'il nous fait la fête d'abord. Donc, après 5 heures de route jusqu'à la maison, Bah, il a parlé, on continue, il a pleuré, il nous a fait des câlins, des bisous, plein, plein, plein. Et puis, dès qu'on est arrivé à la maison, il a trouvé sa place, il a vite compris que c'est sa place. Il est venu dormir, on était crevés, on était fatigués. Et puis lui aussi, après tout ça, après 2 routes dans un camion de transport pour les animaux. Il a vécu des très bons moments. Il a été chuchoté, il a été embrassé, il a été promené. Il a eu the best life, comme on dit. Il a été aimé par tout le monde, par la famille de mon compagnon, par tout le monde. C'était un chien. Enfin, c'était le chien parfait. Il savait quand il avait besoin de protéger, il protégeait toute son équipe. On sortait en promenade en groupe, peut-être de 10-15 personnes parfois. Et il était devant tout le monde et il attendait tout le monde. Il tournait la tête juste pour s'assurer que tout le monde était là et qu'on est tous en sécurité. Puis dès qu'on arrivait à la maison, il faisait la petite fifille, il jouait avec ses ballons, il faisait toute la folie du monde. Il était le roi des ballons parce que, enfin, on faisait avec mon compagnon, on faisait des paris, on achetait des ballons tout le temps et puis on se disait, bon, bah, toi, tu penses que ça va durer combien, hein? 1 minute. Bah, moi, je pense que ça va durer 30 secondes. Donc, ouais, il adorait la vie. Malheureusement, il a eu des cancers. Il a eu beaucoup de mastocytome. On l'a opéré plusieurs fois. Et on pense qu'il nous a fait un AVC.
J'aimerais vous poser une petite question, Dina. Après avoir connu et vu toute cette maltraitance peut-être animale, voilà, des animaux souffrir et autres, aussi avec l'histoire de votre chien qui a été maltraité petit, que vous avez peut-être un peu dressé vous-même ou éduqué, est-ce que maintenant avec un peu de recul, c'est votre métier désormais, est-ce que ça vous a peut-être aider à trouver votre voie, finalement, est-ce que c'était peut-être en vous, est-ce que c'était quelque chose que vous aviez naturellement?
Je pense que c'était toujours une évidence. Mais le fait de m'occuper d'Athos, moi, il l'a fait tout simple. Hein. Athos, c'était. Voilà, Athos, c'était Athos. On va dire comme ça. Mais lui, il a fait tout simple. On a pris confiance ensemble. On a tout travaillé ensemble, la communication, la confiance, tout. Mais c'était. Enfin, le déclic, c'était vraiment sa mort, je pense. Parce que je lui avais promis que j'y vais sauver un autre chien. Il n'est pas parti pour rien. Hein. S'il est parti, c'est pour que je. Enfin, moi, j'ai vu comme ça. C'était pour que je puisse me rendre compte que je dois faire ça. Que je dois m'occuper des animaux, que je dois sauver des animaux, que je dois être la personne qui parle pour eux, qui réfléchit avant tout pour eux, qui leur donne du voix et du sens parce que, enfin, c'est pas parce qu'on a des animaux qu'on les comprend toujours ou qu'on essaie à les comprendre. C'est pas parce qu'on a des animaux qu'on les aime, parce qu'on connaît bien, on a beaucoup d'exemples de maltraitance malheureusement et de tout ce qui se passe aujourd'hui. Puis on revient à l'abattoir, c'est ce qui m'a permis de voir ça aussi. Qu'on parle de tout ce qui est maltraitance, on parle de tout ce qui est animal, de tout ce qui a un cœur, de tout ce qui peut réfléchir en tant qu'animal. Et qui, grâce à eux, bah, ça nous donne du sens à la vie. Je mélange les idées, mais tout vient de là. Tout vient du fait que Athos, enfin, il m'a permis d'ouvrir les yeux et de voir que je suis faite pour ce métier, que c'est quelque chose que je dois faire et que je dois avancer pour les animaux.
On est chez vous, on voit qu'il y a beaucoup d'animaux, vous êtes entouré d'animaux.
Oui.
C'est super d'ailleurs. On voit qu'ils sont tous choyés, très heureux. Donc désormais, vous travaillez en tant qu'éducatrice canine, c'est ça ?
Oui, c'est ça.
Vous avez plusieurs chiens chez vous, notamment un, Sacha, c'est ça ?
Oui, Sacha.
Avec lequel vous travaillez.
C'est ça.
Quelle est cette relation avec un animal de travail ? Est-ce que c'est différent ? Alors, bien sûr, c'est votre animal aussi que vous aimez au quotidien.
Oui.
Mais il y a cette partie aussi travail avec Sacha.
Ça.
Comment vous pourriez décrire cette relation-là ?
Alors, tout d'abord, tout commence avec Athos. Parce que Sacha, on l'a depuis quand elle était petite. Donc, on a trouvé un annonce par Internet avec elle. On réfléchissait si on prend ou pas un deuxième chien qu'on en avait à tous. Donc, on a trouvé l'annonce des chiots où il y avait Sacha. Et mon compagnon il est tombé amoureux. Il a dit, c'est elle. Oh, je la veux, c'est un canet corso. Ça doit être elle. OK, donc on a pris Sacha. Quand elle était toute petite, elle avait 2 mois. Et ce lien entre elle et Athos a été tellement fort que Athos, le temps passé ensemble entre les deux, a permis à transmettre à Sacha tout le savoir qu'il avait. Tout, absolument tout. Donc Sacha, il a pris tout de lui... sa sagesse, et elle réfléchit comme lui, elle fait tout comme lui. Et par la suite, comme j'avais promis à mon chien de sauver encore un autre, d'où aujourd'hui on a Damon, papy Damon, qui est sauvé de la SPA suite à la mort d'Athos. Le savoir d'Athos qui a été transmis à Sacha, aujourd'hui est transmis à Damon. Damon, quand il est arrivé à la maison, il a passé 3 jours avec la muselière parce qu'il ne savait pas se comporter dans une maison. Il voulait que voler de la nourriture. Il montait partout sur le plan de travail dans la cuisine, sur la table. Il était capable de te mordre la main juste pour arriver à choper de la nourriture. Donc Sacha, il a tout appris. Elle a appris le calme. Elle a appris à se poser. Elle a appris à réfléchir, à utiliser son nez, à jouer, à aimer, à accepter les personnes tout autour de lui. Donc, elle a tout passé. Donc, d'où le lien avec ce métier qui est très fort avec mes animaux et puis surtout avec Sacha, ma chienne de travail. Je pense qu'elle a une sagesse qui est je ne sais pas si elle est née comme ça, si elle est née comme ça avec cette sagesse ou si elle a été transmise. Mais dès le début, dès que j'ai commencé à faire des cours d'éducation, bien sûr gratuites au début, j'ai vu qu'elle était intéressée, qu'elle était très intéressée à intervenir. Donc, j'ai rien travaillé spécialement avec elle. C'est elle qui a décidé qu'elle doit travailler les chiens parce que chaque fois qu'on amène des autres chiens qui viennent soit en garde chez moi, soit pour l'éducation, rééducation, c'est elle qui décide de les intégrer dans cet univers, dans le foyer. De les calmer, de leur montrer le tempérament, le comportement et les codes canins, ouais. Et de les apprendre ce qu'ils ont à apprendre, hein, en fait. D'accord. De ne pas déranger les autres animaux, comment se comporter auprès des humains, de se calmer quand ils ont trop d'énergie, comment marcher, comment faire en promenade, comment jouer, enfin tout ce qu'ils doivent apprendre, tout ce qu'ils doivent savoir pour qu'ils puissent s'épanouir en tant qu'un chien. D'accord. En fait.
Ouais. Donc, elle arrive à faire tout ça d'elle-même. Vous, comment vous intervenez pour vous, peut-être, j'imagine qu'elle ne fait pas tout seul, vous la guidez, comment ça se passe?
Oui, tout à fait. Moi, je suis son guide. Moi, je suis sa bouche, sa voix. Moi, je suis celle qui lui dit quand est-ce qu'elle doit intervenir et auprès de qui. Oui, tout à fait. Moi, je la guide. Elle sait par elle-même qu'est-ce qu'elle a à faire, mais c'est moi qui lui dis. Enfin, elle sait très bien faire la différence entre le moment où on travaille et le moment où on travaille plus, où on joue, où on
D'accord.
se calme, où on se promène. Où, oui, on a des phrases, on a des mots qu'on échange, que j'échange avec elle. Elle sait bien quand c'est le moment de travail. Bien sûr qu'il y a beaucoup de travail à côté avec elle pour qu'elle puisse s'épanouir en tant que chien de travail et que chien de famille aussi, pour qu'elle aille tout ce qu'elle a besoin.
On parlait de votre travail d'éducatrice canine, mais il y a aussi le travail de médiation animale. Est-ce que vous pouvez peut-être expliquer qu'est-ce que c'est et du coup peut-être aussi qu'est-ce que quel enfin est-ce que vous pouvez décrire les bénéfices de cette médiation animale chez les personnes avec qui vous intervenez?
Oui, bien sûr. Comme je disais, comme j'ai voulu me former en tout ce qui est autour de l'animal et surtout autour du chien, l'année dernière, je me suis formée en tant qu'intervenante en médiation par l'animal. Tout commence en Roumanie quand j'ai travaillé dans une fondation pour les personnes handicapées pendant 7 ans. Donc j'ai tout fait avec eux, j'ai accompagné les personnes handicapées en tout, on les formait jusqu'au moment où ils ont trouvé du travail. Cette fondation qui avait un centre de thérapie occupationnelle où on faisait plusieurs activités. On travaillait aussi en bénévolat avec des kinésithérapeutes, avec des psychologues. Donc, on essayait de faire une palette assez large des activités pour eux. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas s'occuper des personnes qui ont besoin, surtout de connaître et de c'est beaucoup dire guérir, mais de pouvoir intervenir dans leur quotidien par l'animal, surtout par le chien, de leur amener du bien, de leur amener de l'apaisement, du bien-être, de leur faire oublier les souffrances et les douleurs qu'ils ont. Et on parle du public des personnes handicapées, soit qu'ils ont des handicaps locomoteurs, soit qu'ils ont des handicaps plus graves. On parle aussi des troubles, tout type de troubles, qu'on parle des autistes, qu'on parle de trisomie 21 ou des autres troubles. Et qu'on parle aussi de la dépression par laquelle je suis passée suite à mon burn-out, qui m'a fait aussi réfléchir et qui m'a donné ce lien-là qui est très fort. Parce que moi, j'ai passé par ma dépression et j'ai guéri grâce à mes animaux et à mes chiens aussi. Donc, pourquoi pas partager tout ça avec des autres personnes? Pourquoi pas pouvoir leur offrir ce lien, moi qui en tant qu'intervenante, faire le lien entre les personnes et les animaux, les chiens. Et en parlant de médiation animale et médiation par l'animal, c'est de la thérapie. C'est toute une thérapie qu'on travaille auprès des personnes sensibles. On peut aller aussi bien en EHPAD, travailler avec les personnes âgées, comme on peut aller aussi bien dans les écoles, travailler avec les enfants qui ont du mal à se concentrer ou qui ont du mal à être intégrés dans un groupe. J'ai eu pendant ma formation, j'ai eu la chance de rencontrer des personnes à partir de la MAM, donc des petits qui commencent l'école, donc qui sont un peu perdus au début et qui savent pas trop où ils sont, qu'est-ce qu'ils font là, qu'est-ce qu'ils doivent faire. Donc en les aidant un peu à trouver leur place et à travailler la confiance en eux. Donc on peut très bien travailler la confiance en soi. J'ai eu aussi la chance de rencontrer des dames qui étaient atteintes de démence. Donc on a préparé des ateliers spécialement pour elles, où on a travaillé la mémoire, où on a travaillé l'apaisement, où on a fait des séances de bien-être par l'intermède du chien. Et j'ai eu aussi la chance de rencontrer des personnes atteintes de IMC qui étaient, malgré leurs handicaps, qui sont des personnes extraordinaires et qui sont des personnes, même s'ils ont des fauteuils roulants, qui sont des personnes valides et qui vivent leur vie avec beaucoup de joie. Qu'ils ont accepté de découvrir la médiation par l'animal et de travailler leurs, on va dire, habiletés. Enfin, ça nous fait découvrir qu'est-ce qu'on peut faire. Il y a plein de choses qu'on peut faire par l'intermède de l'animal. Par exemple, travailler la spasticité pour une personne qui ne peut pas ouvrir ses mains, qui ses mains sont serrées et fermées tout le temps, et puis tu vas après quelques séances avec l'animal, tout en le brossant, en le caressant, en lui donnant des bisous, des câlins, en lui faisant des câlins, tu vois par l'intermède de ce chien les mains quand il s'ouvre, les paumes, les doigts qui font des câlins sur le pelage du chien, qui prend du plaisir, qui font de la thérapie dans le même temps, et ça fait un bien de fou. Si vous imaginez pas la joie qu'on a en voyant tout ça, qu'on arrive, que le chien, qui est un animal, déjà surtout, c'est l'animal qui ne juge pas. Nous, en tant qu'intervenante, on dit quoi faire, mais c'est l'animal qui fait tout. C'est l'animal qui apaise, c'est l'animal qui se donne vers l'humain, qui se laisse porter et qui se laisse caresser et qui donne la confiance et tout son corps, toute sa joie de vivre pour apaiser et pour travailler. On peut travailler, par exemple, pour une personne qui déambule beaucoup, qu'on a besoin de faire des soins, par exemple, et qu'on n'arrive pas à faire les soins parce que la personne, voilà, et par exemple, à cause d'une démence, elle n'arrive pas à faire ses soins, elle oublie où elle est, elle ne sait plus, elle ne connaît plus son corps. Ben voilà, par l'intermède du corps de l'animal, on arrive à se souvenir des différentes parties de notre corps. Ou, par exemple, on n'arrive pas à faire des soins, et on fait des activités avec cet animal, avec ce chien. Ça peut être avec des lapins, ça peut être avec des chats, ça peut être avec des cochons d'Inde. Ça peut être aussi bien avec des chevaux. Qu'on arrive à travailler des choses. La confiance en soi. Quand on voit un cheval qui pèse je ne sais pas combien de fois plus que nous, et puis qu'on voit qu'il est très très apaisé, qui nous laisse le conduire, qui nous laisse le tourner, qui nous laisse faire des obstacles avec lui, qu'on arrive à le brosser et qu'on arrive à sortir tout ce qu'on a, qu'on pense qu'on a du mal en nous et qu'on reste apaisé après une séance de médiation et qu'on part serein et qu'on arrive à respirer mieux et qu'on, sans se rendre compte de ce qu'on a fait, en fait, c'est, tout est simple. L'animal, c'est ça ce qu'il fait, que ce soit dans la médiation par l'animal, que ce soit dans l'éducation, tout est simple. Il faut qu'on laisse l'animal nous montrer ce qu'il sait faire. C'est naturel. Il ne faut pas. C'est nous, en tant qu'humains, qu'on complique tout. Mais lui, l'animal, il sait ce qu'il veut. C'est simple. Il faut juste qu'on le regarde et qu'on se rende compte, qu'on apprenne à le respecter et à réfléchir comme lui. C'est tout.
En vous écoutant... quand je vous écoutais, je pensais aussi au fait que l'animal, il est dans le silence et qu'il y a des personnes, peut-être auprès desquelles vous intervenez, qui ont un accès au langage qui est plus compliqué. Et donc, le silence de l'animal, il va aussi amener un autre type de langage, peut-être qui dépasse notre langage d'humain.
Oui, tout à fait.
Et puis il y a peut-être une autre relation possible au-delà de ce langage que nous on utilise,
quoi. Oui. On est des personnes. On est intelligentes. C'est pas pour ça que, enfin, on connaît pas assez les animaux de tout autour de nous. C'est seulement en vivre avec et en les regarder, moi je passe beaucoup de temps à regarder mes animaux, à voir leurs réactions, à lire leur comportement, et je me rends compte de plus en plus de ce qu'ils savent faire et de ce qu'ils peuvent faire. De la sagesse qu'ils ont et de tout ce qu'ils nous apprennent. C'est impressionnant et c'est incroyable. Je suis émue de tout ça tous les jours. Et je dis à mon compagnon, c'est pas qu'une seule fois que je lui dis « Hé, regarde. Regarde la position qu'elle a. Regarde comment elle regarde l'autre animal. Oh, regarde comment elle met la tête, la chienne, sur le petit cochon d'Inde. » Oh, regarde les petits oiseaux, comment ils se font des bisous. Oh, regarde mes oiseaux, parce que j'ai beaucoup de poules qui sont sauvées. J'ai 20 poules qui sont sauvées. J'ai des dindes, des dindons, des cannes, un canard. Et puis, tout le temps, je regarde le comportement. Et puis, comment ils savent, dès que je suis sortie de la maison, ils ont mangé, ils ont plein de nourriture. Dès que je suis sortie de la maison, comment ils savent venir tous vers moi, la joie avec laquelle ils viennent. Je veux sortir avec vous, vous faire voir. Ils lèvent les ailes et ils volent pour qu'ils arrivent plus vite vers moi. Donc c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est l'empathie qu'ils ont. On a beaucoup à apprendre des animaux. Beaucoup, beaucoup. Et il faut qu'on voit ça en nous. C'est ce qui est meilleur en nous, c'est ça. C'est qu'on a la capacité d'être bonne. Plus que toutes les choses mauvaises qui se passent tout autour de nous.
Vous nous parlez de tous vos animaux. J'ai remarqué que la plupart des animaux que vous avez sont recueillis.
Oui.
Est-ce que c'est un choix de votre part, enfin, ou c'est quelque chose de... qui est important pour vous de recueillir les animaux?
Oui, c'est quelque chose qui est très important, malgré le fait que c'est très difficile au niveau financier, parce que mon métier, c'est un métier de cœur qui avant tout c'est pour faire du bien plus que pour gagner de l'argent. Malheureusement, peut-être qu'un jour j'y vais arriver à gagner ma vie dans tout ça, mais jusque-là, on est loin. C'est très important pour moi d'accueillir des animaux et de ne pas acheter. Et je conseille, je vous conseille tous fortement de ne pas acheter. Il y a de la douleur, il y a de la souffrance dans ce monde, plus qu'on s'imagine, plus qu'on voit avec nos yeux. Donc, n'hésitez pas. Il faut ouvrir le cœur et voir plus loin de magasin, plus loin de l'élevage, plus loin de... Ça dépend ce qu'on veut. Il faut qu'on se demande, est-ce que je peux accueillir, est-ce que je peux aider, est-ce que je peux... Enfin, pour moi, c'est difficile, j'ai laissé beaucoup, enfin, il y a beaucoup de choses que je ne me permets pas pour moi. Par exemple, le fait d'aller voir ma famille en Roumanie depuis 3 ans. Parce que j'ai fait mon choix et je préfère de prendre soin de mes animaux et de leur offrir la meilleure vie possible. Parce que y en a beaucoup qui ont passé par la souffrance. J'ai des oiseaux qui étaient dans des cages, j'ai des oiseaux, des poules qui sont sauvées de l'abattoir. J'ai la petite calopsite qui, on sait bien qu'il a appartenu à quelqu'un, mais qu'on l'a trouvé, il ne savait pas voler, donc il ne pouvait pas voler. Donc c'est qu'il a passé beaucoup trop de temps dans une cage fermée, on ne peut pas ouvrir ses ailes. J'ai mes chiennes qui viennent, une de retraitée de l'élevage et puis qui a des masses sur le ventre, donc qui va falloir la faire opérer. Donc j'ai peur pour sa santé. J'ai l'autre chien qui est voilà. Qui c'est un sauvetage et qui vient de Guadeloupe par le biais d'une association. J'ai mes chats qui sont des sauvetages aussi, la plus petite que je l'ai trouvée avec ses autres 3 frangins, avec leur maman morte à côté, quand ils avaient environ 3 semaines. Donc, ils ont grandi au biberon et puis là, je suis très, très heureuse parce que c'est mon fils qui a 2 frangins et puis un cousin de mon compagnon qui a l'autre. Donc, ils sont tous bien et j'ai des nouvelles tout le temps. Et puis, j'ai encore un autre chat qu'on a pris chez nous parce que sinon, on l'a pris de chez quelqu'un qui nous disait qu'ils ont un chat qui fait des bébés et puis qu'elle va les tuer de toute façon. Donc voilà, il est arrivé à la maison pour ne pas se faire tuer. Donc oui, ça me tient à cœur, tout ça, le sauvetage.
J'aimerais juste vous laisser le micro si vous avez un petit mot, quelque chose qui vous tient à cœur, peut-être pour les gens ou quelque chose... Voilà, je vous laisse vous exprimer.
Merci beaucoup. Si j'ai quelque chose à dire aujourd'hui, en plus de tout ce que j'ai dit, j'aimerais dire, si vous arrivez à accueillir des animaux, n'hésitez pas à passer vers moi si vous avez besoin de conseils. Les conseils sont toujours gratis. Si vous avez des chiens et qu'ils ne sont pas bien... Je ne fais pas du tout la pub, pas du tout. Je suis pas ça. Pareil, si vous n'arrivez pas, si vous trouvez pas l'équilibre avec vos animaux, n'hésitez pas à venir vers moi. Les conseils sont gratis. Je dis encore une fois, avant de prendre des décisions qui nous font mal au cœur, qu'on les amène au refuge, qu'on les amène à l'abattoir. Qu'on fasse des choix qui sont difficiles. N'hésitez pas à demander tout autour de vous, à regarder la vie, à voir que vous êtes beau et belle et que vous avez un grand et un âme qui est en vous et qui palpite chaque seconde. Et n'hésitez pas à réfléchir que les animaux, ils sont pareils, qui savent aimer, qu'ils ont un âme comme vous et qui méritent plus et qui méritent une vie heureuse. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Gina.
Ce projet a sollicité divers acteurs locaux, tous liés via le pacte culturel, notamment les associations Superflu et Radio Soleil 35, la photographe Lise Dua, sans oublier les services de Quénon Marche de Bretagne et les habitants du territoire. Ce projet n'aurait pas été possible sans le soutien de divers partenaires, la DRAC de Bretagne, la Région Bretagne, le département d'Ille-et-Vilaine et Quénon Marche de Bretagne. Nous vous remercions tous pour votre écoute.